âme est restaurée quand l'Esprit du Seigneur m'envahit, m'entoure. Quelle grâce que le Seigneur nous fait de nous assister chaque jour par son Esprit Saint. Oui, on n'est pas seul sur terre. L'Esprit Saint est en nous. L'Esprit Saint nous envahit, nous entoure et nous assiste en tout temps, en tout moment, en toute situation. Nous sommes dans la joie de revoir des nouvelles têtes, des retours de vacances. C'est une grâce du Seigneur de nous accorder des petits moments de repos aussi. Hein. On est quand même des êtres humains sur terre, le corps se fatigue. Donc il faut restaurer ce corps pour repartir de plus belle. Donc merci pour nos frères et sœurs qui ont passé des agréables moments, qui sont revenus parmi nous. On les accueille avec joie. Voilà, le Seigneur est présent. On va partager sa parole. Il y a quelques mardis, j'avais partagé avec quelques frères et sœurs qui sont là, du prince de ce monde. Et vous connaissez tous le prince de ce monde, hein. C'est Satan lui-même, hein. C'est lui qui tient le monde. Et c'est vrai que nous avons vu à travers ce prince de ce monde qu'il offre plusieurs facettes au monde pour séduire le monde. C'est vrai que sur le prince de ce monde, il a toujours été présent depuis qu'il a été déchu. Mais quand on regarde les actualités, on constate que ce prince de ce monde, il sévit de plus en plus. Et il a diverses facettes pour séduire les jeunes, pour séduire les moins jeunes. Et on avait vu, hein, sœur Viviane, comment il peut même séduire un chef d'entreprise afin que son entreprise puisse prospérer. Il va se tourner de la parole de Dieu pour se mettre du côté de le prince de ce monde afin qu'il puisse vendre de plus de marchandises, qu'il puisse faire du chiffre, etc., etc. Et j'avais dit à nos frères et sœurs qui étaient présents ce mardi de faire attention. Il est là, il sévit. L'Esprit Saint est avec nous. Il nous supporte dans toutes les situations, dans toutes les épreuves. Mais ce prince de ce monde, son heure arrive. Donc il fait tout pour séduire nos jeunes, nos plus jeunes, nos moins jeunes. Et j'avais rappelé à nos frères et sœurs présents de faire très attention, de plus en plus faire très attention. Parce qu'il a beaucoup de facettes, diverses facettes. Et quelquefois, certains d'entre nous tombent dans son piège encore. Voilà. Bon, c'était juste un rappel, une petite introduction. Ce n'est pas mon message de ce matin, mais je voulais, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà. Mise en garde. Voilà. On est là aussi pour se mettre en garde. Ce matin, je vais vous parler de la persévérance au milieu des épreuves. Et apparemment, tous les chants m'ont devancé. Même vos prières m'ont devancé. Et pourtant, on ne s'est pas concerté. On ne s'est pas concerté. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce matin, de partager avec vous sur la persévérance au milieu des épreuves. Et pour débuter, nous allons prendre Hébreux chapitre 12, versets 1 à 17. Hébreux 12, versets 1 à 17. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Pardon. Il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés à cela, ou qui ont connu cela, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés, à ce qui n'est point d'impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit. Amen. Frères et sœurs, une question peut se poser. Gardons-nous la joie? Restons-nous en paix en dépit de certaines circonstances qui viennent perturber nos vies? Comment est-il possible d'avoir un sommeil paisible la nuit quand nous sommes assiégés par les difficultés? En tant qu'être humain, nous savons que ce n'est pas chose facile. Quand les difficultés sont là, ce n'est pas chose facile. Il y a des situations qu'on peut supporter, mais il y a aussi des situations qui sont quelquefois difficiles à supporter. Quand les moments difficiles, compliqués se présentent, quand tout devient sombre, alors des questions viennent perturber nos pensées. Il est vrai qu'en général, l'être humain, en général, n'admet pas la souffrance. On voudrait que tout le temps ce soit joyeux dans nos vies. Qu'il n'y ait que des beaux jours, pas des mauvais. Mais vous savez que supporter la souffrance, je dis bien supporter la souffrance, sans murmurer, ça nous aide aussi à corriger nos caractères. Il dit bien, supporter les souffrances sans murmurer nous aide aussi à corriger nos caractères. On peut souffrir à cause de nos fautes, mais aussi nos fautes, quelquefois des fautes innocentes qu'on peut causer. Derrière ça, après, c'est des regrets. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû, mais c'est fait déjà. On peut appeler ça erreur innocente, faute innocente. Mais aussi, on peut... Merci, frère. Mais aussi, on peut souffrir à cause des fautes des autres aussi. On peut en souffrir énormément. Chers amis, vous savez, en recherchant continuellement la présence de Dieu dans nos vies, son amour, sa justice, en retour, il nous donne la paix. Cette paix intérieure que nul ne donne. Il n'abandonne jamais ses fils, il n'abandonne jamais ses filles qui endurent l'épreuve. Et pourtant, des fois, nous murmurons, nous nous posons des questions, à savoir pourquoi telle situation, pourquoi cela m'est-il arrivé, pourquoi pas l'autre, eh oui, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre. Ça nous arrive de sortir ça, hein, de le dire. Le verset 8 d'Hébreu 12 qu'on a vu, qu'on a lu, nous dit que « Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Donc nous voyons que les châtiments, les épreuves, ça fait partie du plan de Dieu. Il nous dit que si on est exempt de ces châtiments, on est des enfants illégitimes. On n'est pas des enfants illégitimes de Dieu, on est des enfants légitimes. Donc ça fait bien partie de son plan de passer par des moments difficiles, ici-bas, par des épreuves. Et oui, Dieu lui-même aussi, des fois, il châtie celui qu'il aime. C'est sa parole qui le dit. Mais châtier celui qu'on aime, n'est-ce pas sonder sa foi? De voir s'il est bien ancré dans le roc qu'est Jésus-Christ. Donc Dieu ne nous laisse pas tranquille. On n'est pas tout le temps là sur un long fleuve tranquille, que tout va bien dans nos vies. Pas de difficultés, pas de situations compliquées. Montagne russe. Il doit nous sonder pour voir si tu es bien ancré dans ta parole, si c'est bien Jésus-Christ qui fait partie de ta vie pleinement. On peut le relire dans Proverbe 17, chapitre 23, qui ne sera pas projeté. Dieu châtie ses fils et ses filles afin de sonder leur cœur. Proverbe, chapitre 17, verset 3. Mais pour nous, chrétiens, ceux qui croient à la parole de Dieu, il y a des encouragements dans la Bible. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Et on peut trouver un encouragement dans le verset 11 du chapitre 12, qui dit que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, c'est vrai. Quand les épreuves sont là, on n'est pas joyeux, on est triste. Mais il produit plus tard, pour ceux qui étaient aussi exercés ou soumis à ceci, un fruit paisible de justice plus tard. C'est de même aussi pour le psaume 4, pardon, versets 1 à 8, qu'on va lire. Le psaume 4, versets 1 à 8. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la tristesse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend que je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous feront voir le bonheur? Fais lever sur nous ta lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en a. Quand abondent leur froment et leur mou, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc nous voyons que c'est Dieu, c'est quand même un Dieu sûr. Et là, il nous dit qu'il nous donne la sécurité dans notre demeure. N'est-ce pas magnifique de la part de l'Éternel? Hébreux, chapitre 13, versets 6 à 7. Il y a encore un appui, un soutien venant dans l'Éternel. L'apôtre Paul dit que Dieu lui-même a dit, Hébreux 13, versets 6 à 7, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne crains rien. Que peut me faire un homme ?» Amen. Le Seigneur n'a-t-il pas fait des promesses qui sera avec nous tous les jours, les beaux jours, les mauvais jours? C'est sa promesse. En plus, il a répandu sa grâce. Et sa grâce s'accomplit dans les moments de faiblesse. Cette grâce nous soutient, il nous aide à tenir ferme face aux épreuves. Oui, frères et sœurs, tenir ferme quand les ronces et les épines de la vie nous font face. Tenir ferme, c'est un encouragement. Si nous nous plongeons dans l'œuvre de Jésus-Christ lui-même à la croix, nous verrons que Dieu lui-même, un jour, il s'est intéressé à nous personnellement. Et nous savons que sans effusion de sang, il n'y aurait pas eu pardon de péché. Il a fallu ce sacrifice. Il a fallu que le sang de ce innocent soit versé. Mais c'était une façon que Dieu puisse penser à nous, parce que sinon on était perdus. L'humanité, il fallait bien sauver cette humanité qui partait en déchéance. Donc Dieu lui-même s'est penché à nous à travers son Fils Jésus-Christ, afin que ce sang puisse nous laver, comme certains l'ont dit ce matin. Dieu s'est incarné en son Fils, afin que quiconque croit reçoit la guérison de son corps, la délivrance de ce qui le rend captif et le pardon de ses fautes. Donc, pour moi premièrement, mais pour vous aussi, glorifions Dieu sans cesse pour ses bienfaits, pour sa puissance, sa force divine, ses guérisons aussi divines qu'il opère dans nos vies. Il a été chanté ce matin, Dieu donne l'impossible. Pourtant, ce n'est pas concerté. Mais Dieu, n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Quand le peuple s'est mis à douter devant la mer Rouge, ça a murmuré, n'est-ce pas? Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir. La suite, nous la connaissons. Moïse a prié, il a pris le bâton, il a crié à l'Éternel. Et la mer s'est retirée. Amen. Donc ils étaient devant cette épreuve, le peuple, choisi par Dieu. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Comment va passer la mer? On est acculé par l'ennemi. La mer s'est ouverte, ils ont passé à sec. Et de là, ça a été une nouvelle, on peut dire une naissance pour le peuple d'Israël. Une naissance. Il y a une séparation d'Égypte avec eux, et de là, il y a une naissance pour le peuple d'Israël. On ne peut même pas parler de nouvelle naissance, c'est une naissance de séparation d'Égypte, rentrer dans une nouvelle vie, une naissance pour le peuple que Dieu avait choisi, mis à part. Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 16. Pardon. Hébreux 13 à 15 à 16. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, pour lui offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom et n'oublie pas les bienfaisances et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc c'est encore un encouragement pour nous ici-bas. Et là, il y a un appel de confesser ses bienfaits par nos lèvres, par un sacrifice de louange sans cesse. Bien en avant, je vous ai parlé aussi de guérison divine. Oui, nous pouvons dire aussi que Dieu accorde la guérison d'un corps malade, mais aussi la guérison spirituelle et même aussi la guérison psychologique. La guérison divine, et voilà la guérison, la délivrance divine, pardon, réjouit le cœur de Dieu et lui donne toute gloire. Parce que c'est divine. Donc ça donne toute la gloire à Dieu. Car cela vient de lui, une guérison divine et une délivrance divine. N'est-ce pas merveilleux de prier Dieu et un jour de voir sa réponse, sa délivrance, sa guérison? Il y a même certaines personnes qui se privent des fois de médicaments, pas conseillés, ce n'est pas un conseil, mais qui prient et qui se privent de médicaments en attendant la réponse de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une foi très profonde. Certains peuvent le faire, mais ce n'est pas un conseil. Il est vrai que Dieu n'est pas contre la médecine. Et si on nous donne des médicaments, il faut aussi les prendre. Il ne faut pas s'abstenir. Mais il y a des gens qui ont une foi très profonde, qui s'abstiennent quelquefois de médicaments et qui prient tous les jours et en attendant la réponse. Ils viennent de l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu qui s'intéresse à notre corps. Mais aussi, il s'intéresse aussi à notre intérieur. Intérieur, le corps, parce qu'il nous donne la guérison d'un corps malade, des maux qui peuvent nous atteindre tous les jours, mais aussi l'intérieur. Et nous savons que quelquefois, l'intérieur, il a besoin aussi de guérison. J'ai relevé quelques exemples dans la Bible quand Christ dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » La femme à la perte de sang, dès qu'il toucha un pan du vêtement de Christ, elle fut guérie. Et même Christ a été étonné. Qui m'a touché? Ça, c'est la foi. Hein, une foi profonde. Et aussi, j'ai pris l'exemple de Nicodème. Lui devait passer par la nouvelle naissance. Parce que lui, il pensait qu'il était dans le droit chemin, mais Christ lui dit non, non. Il faut passer par la nouvelle naissance. Donc, j'ai pris quelques exemples, mais il y en a pas mal dans la Bible, qui nous démontrent que Christ s'intéresse à notre corps, mais aussi à notre intérieur. Et pour plus de clarté sur les diverses guérisons, nous savons qu'un corps peut être atteint. Nous parlons de guérison physique, maladie physique, pardon. Mais l'âme aussi peut être malade. Et là, nous parlons de maladie spirituelle. Je parle de cela parce que, vous savez, les gens prennent l'étiquette de chrétien. Dès que quelqu'un rentre dans une église, je suis chrétien. Mais tu es chrétien là, ce matin, il n'y a pas d'accusation. C'est en général. On est là chrétien ce matin, mais quand tu sors de là, dans ta vie de tous les jours, es-tu chrétien ? Par les attitudes, par les comportements, par les paroles qui vont être dites, par les lieux que ton pied va fouler. Gardes-tu cette étiquette de chrétien dans toutes les situations? Je vais prendre l'exemple de l'athéisme, quelqu'un qui est athée. N'est-ce pas une maladie spirituelle, l'athéisme? Cette maladie qui est bien répandue dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens athées qui croient en rien du tout, qui n'a pas entendu cette phrase « Mon Dieu, c'est mon porte-monnaie ». Eh oui, J'ai entendu plusieurs fois, quand j'ai voulu parler de l'évangile à certaines personnes, mon Dieu, c'est mon porte-monnaie. Ok, ton Dieu, c'est ton porte-monnaie. Ma réponse a été que tout genou fléchira un jour devant l'Éternel. Alors je me suis dit à moi-même, insensé que tu es, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tu es un insensé. Si la guérison physique est la disparition des systèmes d'une maladie dans le corps ou d'une infirmité, pardon, aussi, c'est formidable. En retour, merci Seigneur. Mais aussi, Dieu, il porte une attention particulière à notre être intérieur. Et comme je redis, bien souvent, cet intérieur a besoin d'une guérison spirituelle et même quelquefois voire relationnelle. Qui peut mener une vie saine et épanouie si de l'intérieur il est rongé par des remords, de l'amertume, de la rancune, des fois de la vengeance ou par certaines déceptions. Quand tout cela est dedans, on ne peut pas mener une vie épanouie. Si le pardon n'existe pas dans ta vie, tu te trouves dans un état de gravité spirituelle. Car la base du chrétien, c'est l'amour. Donc si le pardon fait partie de ta vie, tu as besoin d'une guérison spirituelle. Et vous savez, même entre nous, même s'il venait aussi à manquer de l'approche entre nous, nous avons besoin d'une guérison relationnelle. Je dis bien si il manque à venir cette approche vers l'autre, eh bien, on a besoin d'une guérison relationnelle. N'oublions pas que Dieu a dit « Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres ». Rendez-vous visite, partagez des moments agréables ensemble. C'est là que Dieu prend toute sa joie de voir ses enfants s'aimer, s'entraider, s'unir. Il y a quelques dimanches, un frère ici présent nous a parlé d'alliance. L'alliance que Dieu avait fait avec des hommes de confiance. Et nous savons aussi que Dieu, dans sa souveraineté, il peut aussi briser certaines alliances qu'il avait établies auparavant. Je vais vous lire le psaume 89 qui n'est pas affiché, que j'ai omis de le psaume 89. Versets 39 à 46, pour ceux qui ont la Bible. Et nous verrons comment Dieu avait rompu son alliance avec David. Et comment aussi David, malgré cette ce manque d'alliance avec l'Éternel, quand Dieu a rompu son alliance avec lui, comment il est resté intègre, toujours en recherchant la face de l'Éternel. Le psaume 89, versets 39 à 46. Il dit, le roi David, « Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton roi. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Tu es un objet d'approbe pour ses voisins. Il est un objet d'approbe pour ses voisins, pardon. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive. Et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse ? Donc Dieu y rompit son alliance avec David. Et nous voyons que par la suite, ce fut un désastre pour le peuple que Dieu lui avait confié. La Bible dit que Israël fut dépouillé et emmené en exil. Comment les promesses de Dieu peuvent s'écouler tout d'un coup comme ça d'un jour ? La main protectrice de Dieu s'est retirée pour David. Et pourtant, Dieu lui avait promis à David. Hein, lui avait promis un royaume sans fin. Et du jour au lendemain, Dieu ne répond plus à ses prières. Dieu ne le soutient plus. Et devient une honte. Et il perd des combats. Oui, frères et sœurs, bien souvent, nous-mêmes, nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Ouais, pour nous. Nous ne les comprenons pas. Et des fois, nous avons du mal à discerner les œuvres de Dieu dans nos vies. Il est vrai que Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Mais des fois, c'est vrai que Dieu, dans sa souveraineté, il le fait dans un niveau tellement complexe, cela nous dépasse. N'est-il pas Dieu ? Oui, c'est vrai, il accomplit toujours ses promesses, Dieu. Mais des fois, on est dépassé. Des fois, pour atteindre un but, on doit passer par un autre chemin. Le chemin de la vie, quelquefois. Oui, cela, quelquefois, nous dépasse. Se trouver dans une situation où on est brisé, on est abattu, on est abaissé, comme il a été abaissé le roi David. Des fois, c'est pour notre bien. Eh oui. Des fois, c'est pour notre bien. Des fois, il faut passer par ces chemins-là. Des fois, on se dit qu'on est bien debout sur nos deux pieds, hein, que les épaules sont bien carrées. Mais des fois aussi, le Seigneur, il nous abat. Il nous fait devenir tout bas. Il nous abaisse. Il nous brise quelquefois. Et tout cela, c'est pour notre bien. Il est dit auparavant qu'on ne doit pas être exempt de châtiment. Et tout châtiment, plus tard, produit un fruit paisible de ceux qui y passent. Et oui, le roi David, il s'est plaint de ce que Dieu rompit son alliance avec lui. Et nous voyons que par la suite, dans ce psaume 89, nous montre que David, malgré l'épreuve qu'il passait, il ne sentait plus la présence de Dieu, mais il continuait sans cesse à réclamer la présence de Dieu. Quand tu resteras-tu caché? Parle-moi à l'Éternel. Je te sens plus, je t'entends plus, je ne sens plus ta main. Oui, frères et sœurs, quelle que soit l'épreuve, les épreuves de la vie, quelle que soit l'épreuve qui te touche ce matin, je te conseille de rechercher la face de l'Éternel. Toujours. Voyons qu'au verset 17, il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché ?» Verset 50, « Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois ?» N'est-ce pas une situation d'abandon où se retrouve le roi David? Situation d'abandon. Le chapitre 8 du verset 18 de Romains, qui n'est pas projeté, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. N'est-ce pas des encouragements cela? Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et de cette façon, lui, l'apôtre Paul, il encourageait ses croyants à tenir ferme dans les épreuves, dans la souffrance. Mais après tous ces déboires d'épreuves, après avoir vu que l'Éternel a abandonné, qu'il ne répond pas, qui tarde à venir. Il vient aussi, quand il répond, eh bien, vient la reconnaissance envers lui. Parce que si un jour il a répondu, on a été exaucé, il faut aussi la reconnaissance envers l'Éternel. Reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies. Le psaume 19 nous encourage dans ce sens. Après l'écho de la souffrance, vient le moment de la reconnaissance. Le psaume 119. Versets 65 à 72. On va le lire. Le psaume 119, 65 à 72. Tu as fait du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible, comme de la graisse. Moi, je fais mes délices dans ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Il est bon d'être humilié afin d'apprendre tes statuts. Je relevais dans un livre que j'ai lu cette semaine, qui était vraiment remarquable, qu'avec l'apport de la Bible, quelqu'un qui traverse la souffrance, les épreuves, puisse ressortir de l'épreuve avec une profondeur, une sagesse, une richesse, un amour et même une joie plus intense. C'est pour ça qu'il nous a appelé de lire la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Il y a une fois, tu peux le lire d'une façon, il va te dire quelque chose. Le lendemain, tu le reprends et te dit autre chose. Mais il te parle. N'est-ce pas beau, ça? Il est vraiment remarquable qu'avec l'apport de la Bible, quelqu'un qui traverse la souffrance, les épreuves, puisse ressortir de l'épreuve avec une profondeur, une sagesse, une richesse, un amour et même une joie plus intense qu'on avait avant. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Oui, frères et sœurs, n'y a-t-il pas quelque chose à apprendre dans les épreuves? N'y a-t-il pas quelque chose à apprendre à travers les épreuves? Un conseil, serrons-nous les dents et attendons que cela s'en aille. Alors quand vient le doute, quand nous ne sentons plus la présence de Dieu dans nos vies, quand on est dans un état d'abandon, quand les réponses à nos prières tardent à venir, projetons-nous sur les plans salvateurs que Dieu a accomplis dans la vie de Job, de Joseph et de Christ lui-même. Je te dis quand on se projette sur ce que Dieu a fait pour ces hommes-là, on peut se dire que ça te remonte le moral, ça te donne du courage pour aller de l'avant. Quel que soit le degré de ton épreuve ce matin, continue ta route, demeure en Christ. Ne laisse pas t'envahir par le désespoir. Qu'aucune racine d'amertume ne vienne troubler ta vie. Le ciel est gris, le ciel est sombre. Malgré les efforts que tu as tant faits, tu ne vois pas le bout du tunnel. Un nom a été donné. Le nom de Jésus. Le sacrifice de la croix coule sur nos vies. Alors nous serons libérés, délivrés et guéris. Frères et sœurs, pour terminer, gardons le cap sur notre Sauveur. Amen. le Seigneur puisse nous soutenir la vie durant qu'on passe ici-bas. Amen.